La musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais.
Label Pop, Vincent Théval.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission en grande partie consacrée à un jeune homme de 74 ans qui vient de publier l'un des albums les plus revigorants de l'année. Paul Simon, près de 60 ans après ses débuts avec Art Garfunkel, poursuit sa carrière solo avec Stranger to Stranger, 13e album qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Et nous le ferons ce soir en compagnie d'Olivier Nuc, qui a rencontré Paul Simon pour le Figaro. Et pour accompagner ces chansons singulières et voyageuses, j'ai choisi une poignée de nouveautés qui devraient faire bonne figure. C'est la 166e édition de Label Pop. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h30 sur France Musique. Profitons-en.
Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur, je ne suis pas au meilleur. Y'a plus rien qui me tient, c'est la crise, toi t'es bien. Méprise mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. On attend le Messie, il est là. Tu vois pas, j'entends le bruit des bottes. Oui, mais j'ai pas l'antidote, c'est le prix. Et charrie, c'est plus l'heure. Revoici nos censeurs. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Ferme-la, pour une fois, tu peux t'attendre au pire. Les attentats, les martyrs, qui dit vrai? Et après, faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop.
Vis ma vie, la chanson Crève-cœur de Frère Animal. Premier extrait de l'album Second Tour, dont la sortie est prévue pour le 21 octobre. Et c'est un album qui fait suite au Frère Animal de 2008, qui était un roman musical signé Arnaud Catherine et Florent Marchais, paru aux éditions Verticales. C'était à la fois un livre, un disque et des concerts, centrés autour d'une histoire, comme ça, à la croisée du conte social et de la comédie musicale, qui mettait en scène différents corps de métier, des DRH, directeurs marketing, cadres et ouvriers, tout ça dans le monde de l'entreprise. Arnaud Catherine et Florent Marchais y étaient accompagnés déjà en 2008 par Valérie Leliot et Nicolas Martel. Rebelote cette année avec donc ce second tour qui réunit la même équipe, augmentée, et c'est assez étonnant, de François Morel et Bernard Lavillier, sur des musiques signées Florent Marchais et des textes coécrits par Arnaud Catherine et Florent Marchais. L'album sort donc le 21 octobre. Frère Animal sera en tournée en France à l'automne, tournée précédée par deux avant-premières ce samedi 25 juin à Toulouse et le 13 juillet au Francofolie de La Rochelle. Ain't That Something, nouvel extrait dans la belle pop du Wild Pendulum, des merveilleux Trash Can Sinatras, le groupe écossais qui fête ses 30 ans d'existence très discrètement, avec cet excellent sixième album qui ne bénéficie pas, hélas, de distribution ou de promotion en France. She's been doing it for a while.
afternoon. A great thing for me. I don't worry and I don't think, because it's not my job to worry or to think. Not me. I'm more like every day I'm here, I'm grateful, and that's the gist of it. Now you may call that a bogus bullshit new age point of view, but check out my tattoo. Says Walt Wolfoid. Does everyone know everyone? Mr. Walt Wolfoid. Meet Dr. Well. That cool Papa Bell. The fastest man on earth did dwell as cool Papa Bell. Motherfucker, ugly word. And often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a chase to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk, how cute is that? But you, you motherfucker, are a filthy rat. And well. Is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Cool, Papa Bell. Not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill you feel when evil dreams come true. And check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. Meet Dr. Well. Cool Papa Bell. The fastest man on earth did dwell as cool Papa Bell. And you never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. You never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop, never gonna stop. No. Oh, you're never gonna stop, you're never gonna stop.
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique avec dans l'ordre le nouveau single des Alalaz qui annonce un troisième album pour les Californiens qui s'intitule Calico et qui sort le 9 septembre. Et puis à l'instant, Cool Papa Bell, extrait du 13e album solo que Paul Simon vient de publier. Stranger to Stranger, disque inventif, curieux, généreux, à l'image du parcours de Paul Simon qui porte bien ses 74 ans, ce dont peut témoigner Olivier Nuc qui l'a rencontré il y a quelques semaines pour le Figaro et qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation ce soir dans La Belle Pop. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Vincent, c'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite.
Même un soir de match, hein, je vous prive de France-Suisse. Alors vous l'avez très justement relevé dans votre article dans le Figaro. On est là chez Paul Simon dans une période particulièrement stimulante qu'on peut faire remonter à 2006. Là on a vraiment 10 ans, 3 disques qui apportent quelque chose de particulier.
Trois disques dans lesquels le monsieur s'autorise à peu près tout ce qu'il veut et étant débarrassé des contingences commerciales et vraiment avec une liberté absolue de faire des choses avec qui il veut. Et je trouve que cet épanouissement va crescendo depuis Surprise qui était fait en 2005 ou 2006 avec Brian Eno à Londres. Jusqu'à cet album, c'est très spectaculaire, c'est vraiment une fin de carrière, enfin en tout cas un stade avancé de sa carrière avec des choses très innovantes, comme on le disait, et aussi traditionnelles dans sa manière de faire les choses. C'est assez rare, il est incomparable finalement, le parcours de ce monsieur.
Parcours qui a commencé il y a plus de 50 ans, presque 60 hein, pour être très précis, puisqu'il a débuté très jeune avec Art Garfunkel, il était encore au lycée.
C'était Tom et Jerry le groupe.
Oui, exactement, voilà. 74 ans, je te disais, c'est toujours impressionnant pour quelqu'un qui a toujours une curiosité assez impressionnante. Alors pour les sons, les genres, on va y revenir, mais aussi pour les gens. Ça, je crois qu'on parle un petit peu des artistes dont Paul Simon s'est entouré pour ce disque ou dont il s'est inspiré, en commençant par quelqu'un dont j'ignorais tout, pour être très, très honnête, qui s'appelle Harry Partch, qui est un musicien qui a été actif jusqu'en 74, il est mort en 74.
Oui, il a découvert, lui aussi a découvert ces dernières années en faisant le disque, le travail de chercheur, compositeur, qui travaillait en particulier sur les microtons, c'est-à-dire qu'il avait divisé le prisme musical en des tons tellement spécifiques qu'il a dû inventer ses propres instruments pour pouvoir les jouer, parce que sur des instruments guitare ou piano tels qu'on connaît, on ne peut pas. Et ces instruments ont des noms très poétiques, d'ailleurs, ils sont sur le disque, et Paul Simon m'a raconté être vraiment tombé dans un nouveau monde, ce qui pour un homme qui a écrit autant de chansons et qui compose de la musique depuis si longtemps, doit être extrêmement stimulant de découvrir une autre manière comme ça, et il l'a incorporé au disque. Mais c'est pas pour autant un disque expérimental, c'est fait par touches très discrètes, c'est présent, mais c'est très bien amené.
Il a, comme souvent, fédéré autour de lui beaucoup de gens différents et de générations différentes. Alors parmi les jeunes, les jeunes musiciens qui sont à ses côtés, on va en citer un que les auditeurs de la Belle Pop connaissent forcément très bien, qui s'appelle Nico Melli, qui lui est à la fois un pied dans la musique contemporaine, compositeur, et puis dans la pop où il fait beaucoup d'arrangements. Des travaux avec Sufjan Stevens notamment, c'est un disciple de Philip Glass, hein, il a travaillé avec lui, donc un jeune, et en même temps on trouve au générique de cet album un monsieur qui s'appelle Roy Halley.
Un homme de 80 ans qui a la particularité d'être le collaborateur de Paul Simon depuis le tout début, puisque c'est l'homme qui avait enregistré la maquette de Sound of Silence. Donc là, on remonte au début des années 60, et qui visiblement a encore toutes ses facultés auditives, puisque le son de ce disque est très impressionnant. Paul Simon a insisté, m'a dit, c'est un album qu'il faut écouter en vinyle pour pouvoir apprécier l'écho. Il y a un énorme travail qui a été fait sur l'écho et la réverbération. Et on sent que c'est quelqu'un qui, voilà, encore une fois, Paul Simon s'entoure de gens familiers aussi parce qu'il gagne du temps, il n'a pas besoin d'expliquer et de raconter sa démarche. Je pense que justement, c'est autant de temps préservé pour des nouvelles rencontres et de nouvelles aventures avec des gens qui le stimulent. Nico Melli a été amené par Philip Glass, qui est le meilleur ami de Paul Simon et un des seuls musiciens en qui il fait confiance. Donc on est ravis qu'il l'ait écouté.
Et dans les gens un peu plus jeunes, même génération que Nico Melli, il y a ce musicien plutôt qui vient du monde électronique, qui s'appelle Clap Clap.
C'est le héros du jeune fils de Paul Simon. Donc visiblement, son fils l'écoutait beaucoup à la maison et ça a incité le père à le découvrir et à aller comme ça, avec beaucoup de fraîcheur, aller vers ce musicien qui est italien, je crois. Et ça donne des télescopages assez intéressants.
On va écouter justement pour bien mesurer ce que ce clap-clap a pu apporter au disque de Paul Simon. On va écouter un extrait de l'album Taï Beba de clap-clap qui est paru en 2014 et que Paul Simon considère comme un chef-d'œuvre. Thank you.
père un filon, mon père un soukalé.
Outside the backstage door to breathe some nicotine, and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock. I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying,
hey, you can't do that, aren't this.
And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly. Wristband, my man, you got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just right.
Écoutez la belle pop sur France Musique et je suis en compagnie d'Olivier Nuc pour évoquer Paul Simon et notamment son dernier album Stranger to Stranger dont ce Wristband est un single. On peut dire un mot de cette chanson, ne serait-ce que pour souligner quand même que c'est un sacré auteur.
C'est un grand auteur et dans cette chanson, il y a particulièrement une des caractéristiques de l'écriture de Paul Simon qui est de partir d'une anecdote personnelle. En l'occurrence, un musicien qui n'arrive pas à monter sur sa propre scène, à rejoindre les coulisses parce qu'il ne porte pas le bracelet adéquat, ce qui est arrivé à plusieurs musiciens d'ailleurs. Mais la chanson est construite autour de ça, avec beaucoup d'humour, parce qu'il souligne notamment sa petite taille. Il parle d'un gardien de 2 mètres avec, face à son 1m60 à lui. Mais moi, j'y vois aussi, en élargissant le propos, une chanson, une réflexion politique sur la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, avec le fait qu'il faut avoir il faut montrer des choses, des papiers pour entrer dans un pays. Enfin, évidemment, il y a cette dimension-là, comme il y avait cette dimension dans la chanson America de Simon & Garfunkel, où il partait d'une anecdote avec sa petite copine pour aller vers vraiment une chanson sur, pour le coup, l'immigration. Ou Graceland, qui était le fruit d'un périple avec son fils après un divorce, pour une réflexion aussi sur le monde. Donc il a quand même cette force de nous faire rire, de nous toucher avec des anecdotes qui sont puisées dans sa vie personnelle, et en même temps de donner un propos, mais sans tomber dans une espèce de démagogie façon U2, on va changer le monde. Voilà, c'est vraiment le propre de son écriture.
Vous le questionnez hein, dans votre interview sur ses méthodes de travail. C'est très particulier parce que c'est...
C'est très singulier. C'est vrai que c'est quelqu'un qui explique qu'il a du temps. Il dit « Tant que je ne suis pas mort, j'ai du temps pour écrire des chansons » et qui peaufine. Et en gros, il y a deux manières d'approcher les choses. La manière plus traditionnelle qui est de prendre une guitare et dégrainer des accords jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose. Il explique que c'est la méthode qui a cours pour les ballades, les morceaux lents. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, au moins depuis le début des années 80, Paul Simon a beaucoup axé son travail sur la rythmique. Donc il y a des chansons très harmoniques et aussi d'autres chansons qui sont plus rythmiques, donc les morceaux plus rapides, qui partent d'une boucle sonore, d'une boucle rythmique. En l'occurrence, sur ce disque, il est parti avec l'idée en tête d'avoir des percussions flamenco, mais sans demander à des musiciens espagnols de venir. Il a cherché une section de flamenco américaine, parce qu'il explique qu'il fait de la musique américaine. Et ça, c'est intéressant, c'est de la musique américaine avec un œil sur le monde, mais il ne prétend pas aller coloniser les pays en disant « voilà, je vais vous apprendre », etc. Donc c'est une méthode complètement bicéphale, mais qui donne des choses qui se complètent très bien. Il explique en gros, il est sur la bonne voie pour un album, s'il a une ballade très forte et un morceau rythmique très fort, et après il va composer en fonction de ces deux repères-là.
Chacun aura reconnu You Can Call Me Al, mais dans sa version, dans sa maquette, hein, la version maquette qu'on trouve sur la réédition de l'album Graceland de Paul Simon, réédition qui était parue en 2012. C'était, pour tout dire, la deuxième réédition de la semaine dans la Belle Pop en septembre 2012, au lancement de l'émission. Une chose que je n'avais pas pu dire à l'époque, c'est ce scoop que vous décrochez, Olivier Nuque.
C'est une histoire incroyable. Alors, pendant l'interview, j'avais remarqué que Paul Simon fronçait un peu des sourcils quand on parlait de cette chanson. Et il m'a demandé, mais il dit, mais tu as l'air d'être très attaché à cette chanson. Je lui ai dit, effectivement, c'est un des premiers 45 tours que j'ai acheté quand j'étais adolescent. Et il me dit, je vais te raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à un journaliste. C'est que, en fait, cette chanson a été influencée, doit tout à Pierre Boulez. Alors là, je suis assez sidéré, d'autant que nous avons malheureusement subi la mort de Pierre Boulez cette année, qui est un emblème de la musique française. Je parle de France Musique en connaissance. Il m'a dit, voilà, c'est tout simple. J'avais, à l'époque, Pierre Boulez a été nommé chef d'orchestre du Philharmonique de New York, donc en 71-72. Le meilleur ami, un des meilleurs amis de Paul Simon était un compositeur qui avait pour mission de présenter Pierre Boulez à beaucoup de gens dans la musique. Et Paul Simon lui dit, j'organise une fête la semaine prochaine, si tu veux, tu viens avec Pierre Boulez, si tu veux. L'autre lui dit, je suis pas sûr que ça l'intéresse, mais je lui propose, écoute, s'il veut bien venir, bon, on m'a passé. Et Paul Simon me dit, voilà, c'est une fête typique du début des années 70, il y a des musiciens de pop, de rock, on fume des pétards, on boit, enfin, Pierre Boulez ne se sent pas forcément très à l'aise là-dedans. Il se présente néanmoins à Paul Simon. Paul lui dit voilà, je m'appelle Paul et voici mon épouse Peggy. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et au bout de 20 minutes, l'ami en question, de l'ami commun aux deux, vient voir Paul Simon en disant je crois que Pierre s'ennuie, il voudrait partir. Et Pierre salue Paul Simon. La femme de Paul Simon était dans une autre pièce et lui dit merci beaucoup pour cette soirée, cher Al. Vous saluerez bien votre épouse Betty. Et voilà, il aura fallu 15 ans pour que ça devienne un tube énorme. You can call me Al. Donc vous pouvez m'appeler Al et vous pouvez m'appeler mon épouse Betty. Donc, clin d'œil à Pierre Boulez.
Cet extrait donc de l'album Graceland. On parle depuis le début de cet entretien de l'ouverture de Paul Simon à toutes sortes de musiques. Là, on a un exemple assez frappant avec ce succès gigantesque en 86 que Paul Simon est allé enregistrer en Afrique du Sud à un moment où l'apartheid était encore en vigueur et le boycott théoriquement. Il y a eu ça a été compliqué cette période-là.
C'était compliqué parce qu'à l'époque, il y avait des rockstars cyniques et sans scrupules qui se produisaient à Sun City, qui était comme un Las Vegas au milieu de l'Afrique du Sud. Et donc, des gens un peu plus sensés avaient décrété que ce serait de boycotter, avaient dit « on n'a pas le droit d'aller jouer dans ce pays qui pratique une politique insupportable ». Donc, les musiciens s'étaient entendus pour ça. Il y avait, on se souvient de la chanson de Stephen Zant, « Sun City », etc. Et Paul Simon a bravé cet embargo, si je puis dire, mais on lui en a voulu pour les mauvaises raisons, parce qu'il est allé enregistrer les musiciens sur place. Il n'est pas allé profiter des largesses du système et prendre un cachet monstrueux pour faire une date pour le public blanc. Au contraire, il est allé chercher les musiciens noirs, les musiciens traditionnels, avec lesquels il a conçu le disque et il a crédité nombreux de ces musiciens qui font encore partie pour certains de son groupe 30 ans après. Donc c'est vrai que cette polémique, lui n'a pas très bien compris et les gens qui l'avaient attaqué ont mis 20 ans à reconnaître qu'effectivement ils avaient été un petit peu hâtifs dans le jugement de cette action-là de sa part.
Et qui n'avait pas tenu compte aussi d'un passé, puisque déjà, avec Garfunkel, au sein de Simon et Garfunkel, il y avait une ouverture aux rythmiques brésiliennes notamment, des choses très différentes. Ça, c'est un trajet qui se poursuit encore aujourd'hui, oui. Qui s'est poursuivi dans la foulée avec un album qui n'a pas rencontré le même succès que Graceland, qui s'appelle Rhythm of the Saints, qui sort en 90, qui est assez intéressant là aussi. Il s'ouvre à d'autres régions géographiques, d'autres régions.
Le Brésil et l'Afrique de l'Ouest principalement, oui. Mais c'est vrai que c'est un disque qui a souffert, à mon avis, d'être le disque après Graceland.
Il a un rapport très détaché au succès. Il en parle, c'est assez touchant, très, très, très fin.
C'est quelqu'un qui explique, effectivement, il a 74 ans, une carrière immense derrière lui, des tubes gigantesques. Et il me dit, mais personne n'attend un nouveau disque de Paul Simon, et tant mieux, je ne travaille plus pour le grand public. Ce qui ne veut pas dire qu'il est opposé à l'idée, mais c'est vrai que les radios ne diffusent plus sa musique, etc. Mais c'est par la scène. Il était très étonné, par exemple, de me dire qu'une chanson de l'avant-dernier album, Dazzling Blue, était adorée par le public. Il m'a dit, mais je ne sais pas comment les gens connaissent cette chanson. Il est presque trop modeste par rapport à... Alors que Dazzling Blue est une de ses plus belles compositions de toute période confondue. Mais lui considère qu'il travaille pour lui et voilà les quelques personnes qui continuent de le suivre.
On va partir, nous, du côté du Brésil, avec un extrait précisément de Rhythm of the Saints de 1990. Paul Simon, Can't Run But.
I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, a pinch at your sandals. In December, drink. Chata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit in sidewalks.
Just to see.
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique. Je suis en compagnie d'Olivier Nuc, journaliste au Figaro, pour évoquer Paul Simon. Et là, plus précisément, l'influence de Paul Simon et de sa démarche sur les jeunes générations. Je vais y aller juste d'une petite anecdote personnelle, puisque j'ai fait écouter avant-hier la chanson You Can Call Me Al à mes enfants. Et mon fils aîné, qui a 11 ans presque, m'a dit « Mais c'est Vampire Weekend ». Et voilà, Vampire Weekend, on vient de les entendre avec un extrait de leur album de 2010. Là, pour le coup, l'affiliation est évidente, mais il y en a d'autres.
Il y en a eu quelques autres. Il y a Fool's Gold aussi, ce groupe de Californie qui avait fait deux albums. Je ne sais pas s'il continue d'ailleurs. C'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que ce qui est troublant avec Paul Simon, c'est qu'il est moins admiré et moins culte que des personnes comme Dylan ou Lou Reed, qui sont ses contemporains. Et pourtant, il a influencé beaucoup de gens. Peut-être parce que ça tient à sa personnalité de... C'est un homme assez normal, finalement, Paul Simon. Il a une allure d'intello new-yorkais, plus que de rockstar. On l'a d'ailleurs vu dans un film de Woody Allen, Annie Hall, pour une scène assez drôle. Il y a aussi une scène dans un de ses films qu'il a réalisé en 80, qui l'oppose à Lou Reed, où on voit que finalement, les deux maîtres du rock new-yorkais, c'était Lou Reed et lui, même s'il est plus discret sur le plan. Mais c'est vrai que les musiciens... qui connaissent son travail, s'en réclament et l'écoutent, et ça circule beaucoup et ça garde une fraîcheur, une actualité qui ne sont qu'attirantes pour un groupe, à mon avis.
Et on renvoie tous les auditeurs, bien sûr, à Stranger to Stranger, ce nouvel album de Paul Simon qui vient de paraître. Et on invite naturellement tous les Parisiens à se rendre au Palais des Congrès le 14 novembre, où Paul Simon donnera un concert. Merci beaucoup, Olivier Nuc.
Merci, Vincent.
D'être venu nous rendre visite une dernière fois dans La Belle Pop. On vous retrouve, bien sûr, chaque jour dans les pages culture du Figaro. On se quitte avec un dernier extrait de cet album de Paul Simon. Insomniac Lullaby, qui est le premier titre que Paul Simon a composé pour ce Stranger to Stranger.
They say all roads lead to a river. Then one day the river comes up to your door. How will the builder of bridges deliver us all to the faraway shore? Oh Lord, don't keep me up all night questions I can't understand.
while I wrestle my fears. The sound in my ears is the music that's sweeping the land. The insomniac's lullaby. Soft as a rose, the light from the east, as if all is forgiven and wolves become sheep. We are who we are, or we're not, but at least we'll eventually all fall asleep.
Thank you.
Everyone Loves Charlie, un extrait de la bande-son de Wonder.Land, la comédie musicale qui revisite Alice au Pays des Merveilles, composée par Damon Albarn, écrite par Moira Buffini et mise en scène par Rufus Norris, qui avait déjà dirigé Dr. D, l'opéra composé par Damon Albarn en 2011. Ça se jouait toute la première quinzaine de juin au Théâtre du Châtelet à Paris. J'y étais mercredi soir, c'est une très très grande réussite, c'est très réjouissant, comme tout ce qu'entreprend Damon Albarn, de Blur à The Good, The Bad and The Queen, en passant par Gorillaz, dont un nouvel album est annoncé pour 2017. Colors, l'un des deux singles annonciateurs de ce qui est d'ores et déjà l'un des événements de l'été 2016, la sortie du deuxième album des Australiens The Avalanches. Le disque s'intitule White Flower, sa sortie est prévue pour le 8 juillet et elle mettra un terme à 16 ans d'absence. Le retour de The Avalanches se jouera aussi sur scène avec notamment un concert le dimanche 14 août à Saint-Malo dans le cadre de la Route du Rock. Thank you.
Un souvenir de 1996 avec DJ Shadow pour égrener le générique de La Belle Pop cette semaine. Marie Groux à la réalisation, Frédéric Potry à la technique avec Annick Champagne, Victor Buton au droit, attaché de production Jean-René Bonissant. Merci à toute l'équipe et merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain à 20h30 sur France Musique avec la violoniste canadienne Sarah Neufeld en session. D'ici là, portez-vous bien.